Les causeries de Charlie. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à nos causeries de Charlie autour du dernier numéro, un numéro qui met en couverture un très beau dessin qui montre que notre IVG dans la Constitution va nous amener sans doute beaucoup de touristes américains qui vont venir peut-être avorter en plein Paris.
Pourquoi tu nous regardes comme ça?
Parce qu'on a une petite discussion avant et on savait plus si on était pour, si on était contre, si ceci, si cela, de quoi s'agissait-il.
Contre les touristes à Paris.
Contre et tout ce genre de
très
choses.
Très contre.
Alors, autour de la table, d'abord, nous avons... Je regarde mon conducteur. Nous avons Lorraine Redot, qui est sur ma droite.
Oui.
Alors nous avons, alors lui,
c'est lui, un petit peu il a un nom lui.
C'est un petit peu le patriarche, les vieilles valeurs, un peu l'archaïsme. Antonio Fischetti.
Alors, oui, bonjour.
Ce qu'il va nous dire sur l'IVG, parce que c'est un peu mystérieux.
Je ne sais pas non plus encore.
Convictions sont assez mal fixées apparemment.
Depuis son siège devant le pas de sa porte.
Voilà, c'est un peu ça.
Appuyé sur sa canne.
À côté de lui, peut-être pour le modérer, nous avons Colline Renaud, qui saura peut-être trouver les mots pour l'apaiser.
Alors là, pas sûr. Hein.
La voix des femmes dans ce journal, c'est Gérard Bia de SOS Macho.
Salut Fouls.
Non, c'est pas SOS Macho, rappelle-moi.
Non, c'est Zéro Macho.
Zéro Macho.
SOS Macho.
Alors on peut encore s'inscrire.
Ouais. Ça peut être l'inverse. Si t'as besoin d'un macho, c'est comme pizza. Quand
on peut toujours s'inscrire sur Zéro Macho.
Et c'est, donc on verse le dixième de son salaire et on peut être adhérent à Zéro Macho.
Voilà, absolument. Voilà.
Et le juriste, le constitutionnaliste.
Ça suffit.
Le diplômé en droit.
Te fous pas de ma gueule.
C'est monsieur Riz.
Monsieur Riz de Lamel.
Voilà, c'est ça.
Bonjour, parce que nous aurons un débat sur l'IVG. Enfin, on verra ce qu'on va en faire de tout ça. Mais nous allons commencer par Colline, pour nous mettre en jambes, si j'ose dire. Toi, tu avais fait un reportage un peu étonnant. Tu es allé à Arcachon, comme beaucoup de Parisiens. Mais toi, tu ne t'es pas arrêté à l'ostréiculture et à ce genre de choses un peu lamentables. Tu as été dans le vrai Arcachon, celui des pêcheurs.
Bah, je ne sais pas si c'est le vrai Arcachon, mais en tout cas, c'est un monde dans un monde, puisque c'est le quartier de l'Aiguillon qui se trouve à l'est d'Arcachon. Et c'est là, en fait, il y a une communauté sénégalaise qui fait vivre le port, puisque plus personne ne veut être pêcheur, et en fait, le port survit un peu grâce à eux. Et oui, c'est un Arcachon qu'on n'a pas l'habitude de voir.
Parce que ton article, il commence sur un naufrage.
Oui.
C'est gay.
C'était en décembre, le 21 décembre, il y a un bateau arcachonnais qui a fait naufrage à Cibourg, dans le Pays Basque. Donc le capitaine a réussi à s'en sortir à la nage, puisqu'il ne portait pas de bottes et de ciré, mais ces deux matelots, qui étaient sénégalais, sont décédés. Donc ça a un peu mis cette communauté à la lumière.
Oui, on s'est aperçu qu'il y avait toute une communauté sénégalaise qui était sur les bateaux de pêche de la région. En fait, il y a 15 bateaux de pêche, hein, c'est une toute petite... 150 pêcheurs, 15 bateaux de pêche.
Et... Bah avant, il y en avait 300, en fait, ça fond à grande vitesse. Maintenant, il y a 150 pêcheurs, dont 40 à peu près sénégalais, donc ce qui est beaucoup.
Parce que c'est ce que disait Tonio, avec la protection des dauphins, on ne peut plus pêcher. Hein, Tonio?
Bah oui, non, c'est quelque chose, on a fait un reportage.
Explique-moi pourquoi ceux qui avaient des bottes de pêcheurs
quand l'eau rentre dans la botte, tu tombes à pic.
Ah oui, c'est ça.
Ah bah ça, j'étais. Ouais. Ah oui. Et puis il va nager avec le truc jaune, le ciré jaune.
Ah oui, ouais.
Non, c'est incroyable.
Même par mauvais temps, il faut être en t-shirt et en basket. En fait,
ouais,
non, non, mais si tu tombes dans l'eau, premier réflexe, c'est d'enlever tes chaussures.
Ouais,
parce que c'est lourd, ça t'entraîne vers le fond.
Ça va vite.
C'est un réflexe, ouais.
Ah oui. Bon, amis pêcheurs, écoutez les conseils de Charlie pour éviter de vous noyer.
Ou alors, essayez de trouer tes bottes.
Ah oui.
Et pour qu'elle fasse une sorte de passoire.
Faut déjà un peu difficile dès là. T'es tombé dans l'eau, t'es en train
non,
de.
Non, je le fais avant.
Faut trouver la botte.
Tu fais avant de tomber.
Ah oui,
tu fais pas une fois dans l'eau.
Tu n'aurais pas fait un bon pêcheur, toi.
Non, mais c'est vrai que c'est radical, ça, les bottes dans l'eau. Et puis voilà.
Donc, Arcachon.
Oui.
Alors, donc, ce qui est pas mal aussi, c'est la description que ces pêcheurs font de l'ambiance Arcachon.
Ils ne sont jamais intégrés. Apparemment, quand ils sont arrivés donc, dans les années 70, il y avait énormément de racisme. On leur disait de rentrer chez eux, etc. Et c'est vrai qu'en fait, à Arcachon, il n'y a pas un noir. On peut se balader dans toute la ville pendant plusieurs jours. Mm. Et il n'y a que ces pêcheurs, donc maintenant qui sont assez identifiés, mais qui vivent à côté de la ville. Enfin, ils vivent dans des petites maisons.
Arcachon, ils disent, ah bon, des Sénégalais, on ne sait pas.
Ouais, les gens ne les ont jamais vus. et ils vivent dans des petites maisons derrière la gare qui sont très, très simples, enfin, en tout cas presque pas meublées, un peu à l'abandon, enfin, c'est pas reluisant, c'est pas le Arcachon qu'on connaît habituellement.
Et c'est pas le Arcachon que connaît Gérard.
J'avais mis les pieds Arcachon.
D'accord. Toi, c'est où tu vas chercher tes huîtres et tout ça, hein?
Enchaîne, Lorraine.
On saura peut-être en fin d'émission, on vous donnera les adresses.
Et donc voilà, oui, donc c'est l'histoire d'une communauté qui vit un petit peu à part dans la ville, qui s'est jamais intégrée, et en même temps, ce qui est assez étrange, c'est qu'il y a une grande mélancolie chez ces pêcheurs. Bon, c'est l'histoire d'une migration économique assez commune, finalement.
C'est des galets, elle est assez édifiante aussi.
Ouais. Bon, en fait, ils sont allés les chercher. Voilà. C'était dans les années 50. C'est les Basques, les premiers, qui ont commencé à les pêcher au large du Sénégal, parce que la pêche n'était pas régulée, qu'il y avait énormément de thon à l'époque. Ils sont revenus en France, ils n'arrivaient pas à embaucher. Du coup, ils sont repartis au Sénégal chercher des Sénégalais qu'ils ont embarqués.
Et à l'époque, les Sénégalais leur avaient dit, vous pouvez pêcher dans notre coin,
mais embaucher des
locaux.
Et du coup, ils les ont ramenés en France.
Ils se sont aperçus qu'en France, ils n'arrivaient pas à embaucher de marins. Donc, ils se sont dit, bah, tiens, là-bas, il y a des gars qui sont sur des pirogues, etc., qui sont très bons. Et
c'est ouais. C'était ça le rêve des Sénégalais. Enfin, les Sénégalais me disent, je suis venu en France parce que c'était ça ou les pirogues. Et du coup, ils sont arrivés en France et ils se retrouvent dans une météo qui n'est pas du tout la leur. Ils me disent, ils ont 60 ans, ils ne se sont jamais habitués au froid. Et,
Mais les patrons des bateaux sont des Sénégalais eux-mêmes ou
Non, les armateurs français. Sont français.
Ah, les armateurs sont français, les pêcheurs uniquement sont Sénégalais. Ouais.
Et à tel point que le comité des pêches, à un moment, a dit stop parce que les armateurs voulaient faire des équipages entièrement sénégalais parce qu'en fait les mecs boivent pas, donc ils sont musulmans, ils boivent pas, donc sachant que quand on voit l'alcoolisme chez pêcheurs, bon. Ça se.
Tu veux en dire quelques mots peut-être, Fouls?
Non, c'est vrai qu'il y avait un grand problème d'alcoolisme parce que moi j'ai un peu travaillé dans la pêche à un moment et c'est vrai que c'était juste au moment où ils interdisaient la boisson à bord.
Ouais.
Et il y a des mecs qui, donc, première pêche sans vin rouge à bord, les mecs faisaient des crises de délirium. Il y en a qui étaient repêchés en hélicoptère et cherchés sur les bateaux parce que les mecs étaient intenables. Ils partaient dans des délires.
Il paraît, mais ça, bon, je sais où dire, mais à tester quand même, c'est que. Il y en a quand même pas mal qui, justement, maintenant se sont reconvertis dans la cocaïne parce que pour tenir le coup sur le bateau, tellement c'est dur, s'ils peuvent plus boire parce qu'ils passent toute la nuit à retirer les filets. Mmh. Et donc, ça, il y a quand même pas mal de gens qui le disent. Avant, c'était pas, ça se faisait pas. On disait la coke, c'est dans les clubs parisiens. Mmh. Maintenant, c'est sur les bateaux de pêche, quoi. Tu confirmes,
Je confirme. Il y a beaucoup d'abord de pêcheurs qui sont jeunes et qui sont assez demandeurs. Parce que tu sais, quand on débarque la pêche et tout, généralement, on a quand même le pêcheur est quand même assez bien rémunéré. Donc, et puis il y a toute une partie en cash, il y a toute une partie. Après, souvent, ils partent en fête, etc. Donc il y a tout un aspect un peu festif du marin aussi qu'on connaît pas. Donc, boîte de nuit, etc. Et effectivement, ils sont assez poreux à la cocaïne et tout ça qui ramène après à bord. Mais ça, c'est une parenthèse et nous allons.
Ils continuent à boire. Hein. Enfin, aussi, ça continue aujourd'hui. Même si c'est interdit. Oh, j'ai fait mon premier reportage dans un bateau à l'île Dieu et ils buvaient du rhum à 6h du mat. À 9h, ils étaient tous torchés.
C'était pas des Sénégalais.
C'était pas des Sénégalais. Et c'est pour ça, du coup, que les Sénégalais ont la cote à Arcachon auprès des armateurs. À tel point que le comité des pêches, à un moment, a dit non, ça suffit, vous embauchez des Français aussi à bord.
Même ivre. D'embaucher des mecs bourrés.
On est chez nous.
Bah oui, voilà, chez nous avec notre bouteille de gnaud, là. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Oui, parce que tu dis, alors non seulement parce qu'il y a bien sûr un lien avec le Sénégal, tu interroges un jeune qui est justement le frère d'un des naufragés et qui raconte un peu sa vie et comment il a tout un village aussi. Dans son village, il a 6 enfants, etc. Et comment.
Ouais, ils ont tous des enfants, des femmes et des enfants là-bas. Et en fait, ce qui est assez étrange, c'est qu'ils attendent qu'une chose, c'est de rentrer, comme souvent les gens qui viennent, enfin les étrangers qui viennent travailler en France. Et pourtant, là, ils ont 60 ans et ils n'arrivent pas à rentrer. Parce qu'il y a le confort de la vie en France à laquelle ils n'arrivent pas à renoncer. Il y a aussi la pression de retourner chez eux. Et puis le fait qu'en fait, Arcachon est devenu chez eux, même s'ils n'y sont jamais vraiment intégrés.
C'est la vie des gens déracinés, moi j'en sais quelque chose.
Non, mais oui.
J'ai tout lâché pour venir à Paris, et puis
il y a toujours
ma Bretagne et mon ciré qui m'attendent là-bas, au pays.
C'est-à-dire qu'ils ont plus de 60 ans parfois certains, et ils continuent à pêcher tous les jours.
Ils ont 60 ans, ils travaillent, il y en a un, il a 64 ans, il répare
les filets. Ils ont pas leur trimestre.
Mais
C'est des carrières hachées pour beaucoup. Moi. sur les pirogues, ils n'avaient pas forcément cotisé, etc.
Non, mais c'est impressionnant parce que c'est physique, non, j'imagine, les pêcheurs. Désolé, ça fait vraiment grosse parisienne.
60 ans, t'as
des j'imagine poissons, que c'est un peu physique.
Les poissons que tu manges au sushi, ils tombent pas du ciel, quoi.
Je suis vegan.
Ah, t'es vegan.
Grosse coupe.
Voilà, voilà qui est censé clore le débat.
Alors, on n'a plus rien à dire, on n'a plus rien à manger.
Donc, ah oui, bah,
bon, pour ou contre les Sénégalais. Pour ou contre les Sénégalais.
Alors, bah, RIS, pour ou contre, parce que c'est RIS qui a...
Pour, oui, pour, voilà. Pour
parce que c'est RIS qui a illustré ce bel article, donc tu t'es plongé.
Oui, j'étais obligé de lire cet article.
Une mère magnifique.
Non, super, merci.
Voilà, je pense qu'on a quand même un combo, un joli arty bien troussé, et puis c'est quoi, c'est les aquarelles, c'est les gouaches, les gens aimeraient savoir.
Mais qu'est-ce que t'en as à foutre?
C'est
pas le gars qui s'intéresse, tu t'en fous.
C'est très très beau, c'est croirait la mer, tu l'as vu comment elle est dessinée?
Non, mais c'est du bleu, c'est scolaire, voilà.
Ah non, pas du tout. Pas
si, c'est scolaire. C'est
un peu orientalisant, la façon dont tu l'as fait rouler.
Qu'est-ce que tu racontes, là?
Regarde.
Mais toi, t'as bu, toi.
Alors là, tout le monde se penche.
Ah ouais, là, c'est sensuel. Ah, ouais. Ah oui, quand même.
Ah,
c'est
beau, là.
On dirait des cheveux. On dirait des cheveux.
On dirait des cheveux.
Ah bah, non.
C'est l'italien qui parle.
On dirait une chevelure féminine au vent, comme ça. Mais ouais.
Mais oui.
Ouais, ouais.
Il y a, on sent comme ça, un appel et à la fois un danger, non?
C'est la mère, maman.
Ah non, tu n'as pas entendu. Je n'ai pas entendu. Je suis demandé avec des trucs.
Depuis qu'il fréquente la psychanalyste, Toto est un peu pénible.
Ah, moi, dès que je vois de l'eau, j'ai une poussée de
quoi,
testostérone.
Testostérone.
Je vois de l'eau. Je vois de l'eau, pas quand j'en bois. Quand j'en bois.
Mais t'aurais dû faire marin, t'aurais dû faire pêcheur.
Ah bon, c'est mieux de
D'ailleurs, il y a Aladji, un de mes pêcheurs, qui me dit la première chose qu'il me dit quand on arrive, il me dit moi j'aime les femmes, j'en ai dans tous les ports et des enfants aussi. Je dis ah bon? Il dit non, je rigole, j'en ai pas en Espagne.
Tonio, t'en as en Espagne par contre.
Bon.
Non, tiens, c'est bonne transition pour l'IVG. Ah ben voilà.
Mais merci pour ce con. Oui, parce que là, l'événement de la semaine.
Est-ce que j'ai fait avorter des femmes en Espagne? C'est ça la question. Est-ce
que alors non. Mais tu peux y répondre.
On peut pas répondre. On n'a pas.
Ben on ne sait pas.
Tu sais pas?
Non. J'ai pas de retour.
Attends, ça commence bien l'ambiance. Oui, parce que le sujet d'être, c'était comme l'IVG, mais dans la Constitution. Alors, c'était un peu étrange, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais ce côté comme si Attal était le nouveau Simone Veil, comme si il nous a fait un discours comme si c'était lui qui avait.
Tout le monde voulait être Simone Veil.
Ah, tout le monde s'est pris pour Simone Veil. Là,
ouais, bah, écoutez, on refait le match, on rejoue la scène.
Oui, alors qui fait Simone Veil?
Bah c'est toi du coup.
Ah non,
ici c'est un peu toi.
C'est vrai que ça aurait moins bien marché avec Poniatowski.
Oui,
parce qu'au départ,
c'était
Poniatowski
qui
Simone Veil a repris une loi de qui était.
Alors, les jeunes ne connaissent pas Poniatowski.
Qui a été écrite par Michel Poniatowski, qui était ministre de la Santé sous Pompidou.
Avant. Et
c'est lui qui a écrit ça.
Ouais.
Oui, tout le
début. Oui.
Donc c'est du plagiat, en fait, Simone Veil.
Non, mais elle explique dans ses mémoires que quand elle est arrivée au ministère de la Santé et qu'il y a eu la passation de pouvoir, Poniatowski a ouvert un tiroir et lui a dit voilà, il y a un projet de loi qui est rédigé. Mais
qu'il avait tenté de.
Il avait tenté de le faire passer. Donc en fait, Simone Veil, elle a fait passer un projet qui était déjà dans les tuyaux. Et ce qui veut dire que si Pompidou n'était pas mort prématurément, c'est Poniatowski qui aurait fait passer la loi sur l'IVG. Aujourd'hui, tous les féministes célébreraient Michel Poniatowski.
Ouais, ça change
tout. Ça aurait été différent.
Poniatowski au Panthéon, etc. Après des
En fait, la revanche du mâle hétérosexuel blanc de plus de 50 ans.
Les choses se jouent un peu
largement.
Simone Veil qui a tenu bon, parce que à l'époque Mitterrand trouvait que ça c'était pas un projet vraiment intéressant lui. Est-ce que il disait elle a dû faire le forcing, parce que Mitterrand disait est-ce que ça intéresse vraiment les Français votre histoire, est-ce que
Giscard.
Qui se raconte.
Oui, Giscard, pardon.
Giscard avec Mitterrand.
Simone Veil et Badinter.
Gros montage.
J'ai peut-être pouvoir me présenter aux élections américaines.
Oui, voilà.
À force de confondre les présidents.
Tu viens de gagner le Superstitious Day.
Excusez-moi. Donc oui, voilà. Alors, donc on a l'impression qu'on refait un petit peu, que la France a besoin un petit peu de se retrouver au niveau de certaines valeurs et qu'on refait une espèce de pièce qu'on a déjà vécue, qu'on essaie.
Ouais, mais je sais pas directement la même pièce, parce que non, c'est quand même pas, parce que disons à l'époque là, justement, c'était très houleux. Il y avait justement pour le coup les pour, les contre, qui étaient violemment contre. Puis maintenant, quels sont les contre? Il y en a très peu, même le Front National, le RN, qui justement à l'époque du Front National était violemment contre, Jean-Marie Le Pen violemment contre, et même sa fille Marine Le Pen, elle était contre. Et petit à petit, on voit tous ces gens-là qui ont heureusement évolué dans le bon sens. Mais tu vois que finalement, même dans chez ces plus traditionnalistes qui étaient contre, il y en a finalement une poignée qui ont voté contre.
Est-ce que tu ne penses pas que c'est plutôt la forme qui a évolué que les idées? Parce que moi, je ne fais pas forcément confiance à tous ces gens d'extrême droite pour être.
Ils n'ont pas voté contre. Ils ont pas. Même Bardella a dit qu'il était pour.
Ils ont le sens de l'histoire. Ils savent bien qu'ils vont pas.
Peut-être, mais en tout cas, ils auraient pu.
Non, mais
tu dis que c'est la même pièce.
Ils vont pas gagner sur des questions sociétales. Donc ils s'en foutent.
Mais voilà, mais tu dis que c'est la même pièce. C'est pas la même pièce. C'est juste pas la même pièce. Mais enfin, que ça soit hypocrite ou pas, c'est une autre question. Mais en tout cas, disons, il y a une évolution dans le bon sens qui est manifeste, qui est, voilà, puisqu'aujourd'hui on n'a pas de débat contre cette constitutionnalisation.
Et je sais pas, figure-toi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui justement disaient je suis contre que ça rentre dans la constitution parce que, etc., ça doit pas être un catalogue, etc., mais est-ce qu'au fond d'eux-mêmes c'était pas une façon de dire poliment qu'en fait dans leur fond intérieur ils étaient contre aussi l'IVG, tu vois? Est-ce que c'était pas une... Est-ce que sais, l'argument qu'aujourd'hui c'est plus un débat,
ils n'ont pas manifesté publiquement en tout cas.
Enfin si, parce que au Sénat, quand la première version a été adoptée avec les modifications, il y avait beaucoup moins de sénateurs qui avaient voté pour. Il y a eu qu'une cinquantaine de sénateurs qui ont voté contre le Sénat, ce qui est absolument rien.
C'est pas beaucoup.
Ce qui est pas beaucoup.
Même au Sénat. Ce qui est beaucoup moins que dans le vote en 75, où il y a beaucoup plus d'opposition.
Oui.
Il y a beaucoup plus de contre en 75.
Ben, on est d'accord. C'est exactement ce que je dis. C'est plus la même pièce qu'on joue dans les années de 1970.
On s'est fait peur. On s'est fait peur. C'est bien de protéger le droit à l'avortement. On s'est fait peur en voyant ce qui se passe dans d'autres pays comme aux États-Unis, où effectivement t'as des forces réactionnaires extrêmement violentes et fortes, et on avait un peu peur qu'en France la même chose se passe. En fait, on s'aperçoit qu'en France c'est pas aussi
non, parce que même si des gens étaient au fond d'eux-mêmes, comme le dit Fouls, contre, en tout cas publiquement ils ont pas osé s'exprimer contre.
Mais ils sont pas minoritaires.
Même si minoritaires, ils auraient pu violemment le dire, mais ils l'ont pas dit. Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, même pour eux, c'est plus dans l'air du temps d'être contre, même pour eux. C'est ça. Et donc, ils ont eux-mêmes, dans leur combat, ils ont abdiqué, parce que sinon, ils auraient pu le brandir au effort, même en étant ultra minoritaire. Ils l'ont pas fait. Donc, ça veut dire qu'eux-mêmes ne croient plus à ce combat, mais tant mieux pour nous. Tant mieux pour le camp progressiste, mais
en tout cas, certains y croient toujours, simplement comme l'un d'eux, par exemple, a répondu à la sénatrice Laurence Rossignol quand on lui a demandé « Toi, tu vas voter quoi ?» Il a dit « J'ai une fille de 18 ans. »
Oui.
Voilà, donc en gros, j'ai pas envie de me faire pourrir quand je rentrerai à la maison parce que j'aurais voté contre.
Voilà.
Et ça aussi, c'est une manière de dire moi personnellement, je suis contre, mais j'ai envie d'être chez moi et d'être dans mes chaussons tranquilles sans avoir une scène.
Donc, ces chaussons de sénateur.
Ouais. Les chaussons de sénateur qui sont des chaussons confortables.
Ouais.
Alors, est-ce que tu penses que dans la société il y a encore des gens, toi qui es un peu sur les réseaux justement, qui sont un peu contre l'IVG, est-ce que tu sens des courants, toi?
Évidemment, il y en a toujours, c'est juste qu'ils sont peut-être effectivement un peu moins audibles qu'à une certaine époque, mais oui, il y en a toujours, il y en aura toujours des gens qui seront contre, mais c'est pas grave.
Et chez les jeunes?
Tant qu'ils imposent rien aux autres.
Chez les jeunes?
Mais chez les jeunes aussi, parce que tu sais qu'il y a une remontée, enfin une montée en puissance de comment on peut dire ça, du retour au traditionalisme. Religieux chez les jeunes, donc oui, il y a plein de jeunes, généralement surtout des garçons, c'est étonnant, qui sont contre. Mais.
Voilà. Parce que oui, parce que les gens font le jeûne et la prière maintenant. C'est ce qu'a dit l'Église catholique. Il fallait rentrer dans une période de jeûne et de prière.
Mais c'est carême.
Après ce qui s'est passé sur l'IVG.
Ah oui, oui.
Pour purifier nos âmes.
Comme l'a dit la conférence des évêques de France, elle est bien triste.
Elle est bien triste. Elle est bien un peu secouée. Bon, alors je ne sais pas qui a envie de se battre ici.
Moi, j'ai une idée quand même politique. C'est que je pense que la prochaine étape, parce que là, c'est rentré dans la Constitution, mais la prochaine, le vote est autorisé. Mais je pense que la prochaine étape, c'est serait de le rendre obligatoire.
De quoi dans l'avortement ?
L'IVG, voilà.
Ah oui, bah oui. Je suis assez.
Mais voilà, hein, voilà. Donc c'est ça la prochaine étape le progrès. Rendons-le obligatoire. Pour sauver la planète, je précise. Pour sauver la planète, puisqu'on sait très bien que nous sommes de plus en plus nombreux, nous sommes trop nombreux, et que c'est un drame, on consomme de plus en plus, on bouffe du CO2, etc. On détruit la biodiversité, donc ça va plus. Donc effectivement, je pense que c'est une mesure écologique de rendre l'IVG obligatoire.
Non, mais le truc aussi, c'est que en faisant rentrer le droit à l'avortement dans la Constitution, on résout pas en plus le problème de l'application de la loi. C'est-à-dire que la loi, elle s'applique parfois un peu difficilement. On voit qu'il y a des lenteurs dans la prise en compte médicale. Et à ce niveau-là, moi, j'ai jamais compris pourquoi il fallait attendre autant de semaines et qu'il y ait un parcours aussi long avant que l'IVG devienne effectif. Je n'ai jamais compris pourquoi une femme qui veut se faire avorter... Pourquoi une femme qui veut se faire avorter n'est pas avortée en urgence, comme quand on va aux urgences. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre 4 semaines?
Mais pour lui laisser le temps de la réflexion...
C'est ça, mais qu'est-ce que c'est que ça?
Je crois que c'est plus obligatoire aujourd'hui. Ça a vachement évolué là-dessus. Ouais. Il n'y a plus à attendre 4 semaines. Ah, mais par contre, il y a des grosses inégalités selon les territoires. Il y a des régions où c'est hyper long parce que c'est compliqué de consulter un gynéco, parce que c'est compliqué parce que des fois il y a des ruptures de stock, même des médicaments. Tout ça fait qu'effectivement ça peut être compliqué dans certaines régions.
Donc c'est un problème matériel.
Matériel et structurel. C'est pas la loi le problème, là c'est plutôt l'accès aux soins en fonction des endroits. Oui, voilà. Oui.
Mais il y a aussi le fait que, par exemple, là, on vient de passer une disposition au ministère de la Santé autorisant les sages-femmes à pratiquer des avortements. Oui. Mais il faut qu'elles le fassent sous le contrôle de 2 médecins. Ce qui revient strictement au même.
Donc, parce que c'est le contrôle, c'est peut-être un contrôle par téléphonique.
Non, mais comme elles le disent à juste titre, les sages-femmes font notamment lors d'accouchement, font parfois des actes médicaux beaucoup plus problématiques que des avortements. Il y a toujours ce réflexe de dire ouais, mais quand même.
C'est
un acte particulier. Il y a toujours des réticences quand même qui.
Et puis il y a la clause de conscience. Par exemple, c'est ce que disait Colline.
Elle est maintenue. De la part des soignants,
bien sûr. Et c'est ce que tu disais, Colline, c'est que quand on a déjà du mal à trouver un gynécologue, si celui-ci vous dit, écoutez, moi les IVG, j'en fais pas, je vais vous adresser un collègue. Ça peut encore retarder la chose, etc.
Dans le monde rural où on va avoir accès qu'à son médecin généraliste, si c'est le médecin de famille, j'imagine que pour une adolescente, ça va pas être hyper évident de faire ça et de trouver elle-même un autre médecin. Peut-être qu'il faudrait voir du côté des pharmacies.
Et en plus, il y a des médecins qui sont un peu retors, qui font écouter le cœur qui bat.
En France,
il y a plein de femmes qui témoignent que leur médecin, avant de les avorter, leur a fait écouter le cœur en disant du bébé.
Mais son étang.
Elles font des échographies avant.
Son étang. Tu sais, c'est les disques à 6000 flexibles, là, où on peut entendre tout.
C'est monstrueux de faire ça, je trouve. Oui. C'est scandaleux.
Mais complètement. C'est-à-dire qu'au lieu de dire moi je ne le fais pas, je vous adresse un collègue,
ils vont culpabiliser.
Faire des analyses, donc on va encore perdre une semaine d'analyse, on va écouter le machin et vous êtes vraiment sûr, et ceci et cela, et on perd encore 3 semaines. Et après, pour finir par dire, eh bien moi je n'ai pas envie de le faire si vous voulez.
Quelle bande de connards.
Quelle bande de salopards. Mais ça, on va pas laisser faire. Hein.
Non. Lorraine. On va se battre. On les hait.
On entend rarement Lorraine s'énerver comme ça.
C'est vrai que c'est répugnant, ces types.
Mais oui, je suis d'accord avec toi. Ben voilà, c'est des médecins.
Ils ont tout choix.
Tout ça pour vous dire que le droit à l'avortement, il y a encore tout à faire pour qui deviennent comment dire plein et entier en fait quoi.
Il complètement convainc, oui bien sûr, et c'est pour ça que
moi c'est vrai là, cette grand-messe de cette semaine là, bon tout le monde s'est gargarisé de ça, mais je vais pas dire que c'est un peu de la branlette, mais si pendant ce temps-là il y a rien qui est amélioré sur le concret, on est dans la
dans les mots,
les Français aiment bien les grandes cérémonies et comme ça les grands le grand cérémonial, mais pour quoi, pour c'est un peu c'est oui, puis, ça brasse de l'air quoi.
Ouais, puis après il faut quand même relativiser aussi, c'est-à-dire on a l'air de dire oui constitution donc c'est intouchable, en fait c'est pas touchable, c'est juste difficile, c'est plus difficile que de l'enlever si c'était dans la loi, il suffit de changer la loi, là il suffit de changer la constitution, mais c'est plus difficile, mais c'est pas non plus impossible, c'est juste une difficulté supplémentaire, donc tu vois on a l'air d'en faire un truc absolument magique, c'est gravé dans le marbre, non c'est pas gravé dans le marbre, s'il y a un changement de gouvernement il peut très bien changer la constitution en ayant bien sûr plus d'obstacles, mais il peut le faire aussi.
Mais il n'y a même pas besoin de changer la constitution si tu... l'article c'est la loi détermine dans quelles conditions s'exerce la liberté de la,
c'est la loi qui fait tout
la liberté.
Ouais.
Donc si tu changes simplement la loi en disant on n'a pas le droit d'avorter au bout de 7 jours,
c'est pour ça que je vais dans ton sens en disant tu vois c'est un peu de la branlette dans le sens où on en fait un truc absolument solennel et alors qu'en fait c'est pas si c'est pas si gravé dans le marbre que
ça
change pas grand chose quoi dans la pratique.
Dans la constitution est inscrit aussi je crois le principe de la laïcité. Oui. Et on peut proclamer la laïcité dans la Constitution, on voit la difficulté dans la vie réelle pour faire comprendre ce que c'est que la laïcité
aux
jeunes. Tout est à faire tous les jours, toi, pour que ça soit réel, que ce ne soit pas simplement un vœu pieux constitutionnel. Et c'est un peu ça la limite de tout ça.
C'est un symbole, quoi.
C'est bien de le noter, c'est bien de l'inscrire, mais ça ne suffit pas.
Ce qui est bien aussi, c'est que Mathilde Panot est contente. Elle n'est pas souvent contente, donc pour une fois qu'elle est contente.
Mais elle a été un peu invisibilisée par Attal.
Les Insoumis ont publié un billet de banque avec elle face à Simone Veil.
Ce qui me fait marrer, c'est que c'est bien joli, toi.
On peut acheter quoi avec
un test de grossesse à la pharmacie.
Ces députés qui sont de cette tendance politique se targuent d'être des grands féministes, ils défendent la etc. Je ne sais pas, dans leur circonscription, comment ils expliquent aux jeunes de leur quartier le droit à l'avortement, le droit à la sexualité, comment ça fonctionne. Il ne suffit pas de faire des grands principes au Parlement, de les faire voter, il faut ensuite les faire vivre. Et je ne suis pas sûr que une partie de l'électorat assez conservateur sur le plan religieux qui a pu élire ces députés-là partagent la même conception de la sexualité, de la liberté sexuelle, des femmes, c'est là qu'il faut être sur le terrain.
Je pense qu'ils leur diront ce qu'ils nous ont dit à nous. J'ai été forcé par ma fille. Hein moi-même, j'étais plutôt contre, et puis c'est ma fille qui m'a forcé.
Oui, non, bah.
Monsieur Boucher, monsieur... Ah bon, bah oui, bah d'accord, mais je comprends, moi aussi, ma fille, etc. Et voilà. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça, Lorraine? C'est qu'il faut rester vigilant, bien sûr.
Toujours.
Parce que le combat n'est jamais fini.
Jamais.
Il n'y a pas de danger, je n'y crois pas. Je pense qu'il y a toujours.
Le prochain combat là.
Féministe.
Le prochain. Colline. Je ne me permettrai pas de parler. Oh non, des féministes.
Qu'est-ce qu'on va mettre dans la Constitution là.
Dites-nous pourquoi il faut qu'on se batte maintenant.
La prochaine couve.
Voilà.
Contre les hommes en général.
Les hommes en
général. Non, je rigole. Ça va. On ne peut plus rien dire ici. Non, je ne sais pas.
Va mettre des capotes, hein. Ça règle tous les problèmes, hein, plus besoin d'IVG après.
On peut régler le problème et souscrire, il n'y aura même pas besoin d'IVG avec la vasectomie.
Allons plus loin.
Qui n'est pas facile non plus à faire en France, parce qu'il y a des gens qui... Vous êtes trop jeune pour la vasectomie, réfléchissez bien, il faut toujours réfléchir, tu vois. Quand un médecin, t'es pas d'accord avec lui, c'est que t'as pas assez réfléchi, tu vois. Donc on va se revoir quand vous aurez réfléchi, que vous aurez la même idée que moi. Inferno,
parce que t'as vu que de plus en plus de jeunes hommes avaient recours à la vasectomie.
Il y a des médecins qui disent à 30 ans c'est trop jeune.
Oui, mais en plus c'est réversible en plus.
Non, par contre.
Ah bon?
Non.
Il me semble que c'est réversible la vasectomie.
Je fact-check en direct.
Colline, tu tapes déjà sur ton.
Oui, si j'ai tort, je demanderai à Martin de couper.
Non, en fait, le seul moyen contraceptif qui est vraiment égalitaire, c'est le préservatif, parce que c'est une membrane de plastique qui est également répartie entre les deux partenaires.
Oui, oui.
C'est, alors, c'est, tu sais, c'est non, absolument
non.
égal.
Oui, sauf qu'après, il y a des féministes qui disaient, oui, non, s'ils voulaient justement qu'ils faisaient la promotion du préservatif féminin, parce que elles trouvaient que le préservatif tel qu'on le connaît est un truc un peu macho, parce qu'il se place sur le sexe masculin, et donc que le préservatif féminin, voilà. Sauf que ça n'a pas eu très peu de succès. On peut mettre deux, voilà. Mais je suis pas sûr que ça marque, que ça. Non, je pense que ça peut être fait de l'effet inverse, parce que justement à cause du frottement. Oui, voilà, il a pas eu beaucoup de succès, hein, parce que justement, parce que ce qu'elle disait, c'était que on laisse le choix à l'homme de le mettre ou pas, et alors qu'avec le préservatif féminin, c'est elle qui décide, puisque elle peut même le mettre sans dire.
Si tu veux aussi.
Alors partenaire qu'elles en ont, hein, quoi, en disant ouais, vas-y, toi. Puis en fait,
le choix, c'est tu choisis, et ça va être le partenaire que tu.
Des fois, il y a des.
Oui, mais oui, non, mais
en théorie,
il y en a qui l'enlève pendant l'acte.
Oui, il y en a qui disent, mais non, mais
c'est quoi le mot anglais? Il y a forcément un mot anglais.
Oui, il y a un mot anglais, mais c'est vu comme une agression sexuelle de retirer.
Tu le retires pendant l'acte.
Oui, mais il y a des mecs qui le font. Mais il y a des mecs qui le font.
Non, puis tu éteins la lumière, tu dis, je préfère dans le noir, et boum. Enfin, je sais pas, ça fait pas boum, ça fait un très vertif qu'on retire. Ça fait.
La technique est rodée.
Oh non, non, moi je parle. Là, en journaliste, je parle pas de moi, non. Non, mais attends, non. Faut pas laisser. Faut pas suggérer, laisser entendre ce genre de choses. Oui, non,
pas du tout. Antonio, mais les préservatifs à petits picots.
Vous,
donc la fille se rend compte quand elle est dans l'air. C'est ça, Antonio.
Mais violets. Mais tu sais, il y en a des. Le mieux, c'est qu'il y en a des fluorescents, comme ça, tu peux.
Ah oui, lui, tu
peux pas mentir.
Si elle s'aperçoit qu'il est sur la table de nuit, il y a un problème. Bon, donc soyons vigilants sur les combats pour l'IVG et sur les préservatifs, où on les met, où on les met pas, etc. Il faut être vigilant.
Voilà.
Mais oui.
Pour un meilleur vivre ensemble, n'est-ce pas, Riz ?
Il faut abaisser la garde. Voilà. Faut pas baisser la garde.
Ah oui, ça c'est autre chose.
Eh bien, vous êtes d'accord ?
Oui.
Je crois que là, ça fait un peu consensus, ce petit débat. Là.
Mais oui.
Ouais, bravo.
On va pouvoir profiter pour rendre l'antenne jusqu'à la semaine prochaine.
Voilà.
Bonne semaine à tous. Petit mot.
Je voulais embrasser notre ami Valeriano. Alors, apparemment, Valeriano, il était un petit peu sous le choc après ce qu'on avait dit sur l'IA. Eh ben, j'espère que sur l'IVG, il sera un petit peu rasséréné.
Eh ben, on le souhaite.
Voilà, bonne semaine à lui aussi.